Bonjour Fatih Derder.
Bonjour Simon.
Bonjour Karine.
Bonjour.
Il est question de baby boom
oui.
Dans le Grand 8 ce matin.
On va parler de baby boom. Enfin, en tout cas, on va parler de naissances. Car les naissances sont en augmentation en Suisse. Bon, c'est pas folichon. On est encore loin des deux enfants nécessaires par femme. Mais on remonte la pente. Depuis 2001, la hausse est faible mais régulière, entre 1 et 2% par année. Et puis, il y a quand même une petite particularité dans les zones urbaines, notamment l'arc lémanique. On a constaté un mini baby boom, si vous me passez l'expression, proche de 10% d'augmentation de naissances du côté de Genève l'année dernière. Alors, que se passe-t-il? Un peu les questions classiques. On va se poser pourquoi, comment, quand, combien de temps?
Coluche disait, s'ils ont fait des enfants, c'est parce qu'ils n'avaient pas la TV.
Exactement, c'est probable. Mais c'est une question de fond qu'on va se poser ce matin. L'envie de se reproduire, d'où vient-elle? Et quel est le contexte finalement économique également et d'ambiance qui peut pousser une population à se reproduire? On voit que tendanciellement, l'occidentalisation du monde pousse plutôt à faire moins d'enfants.
Ouais.
Donc c'est quand même l'avenir de l'espèce humaine qui est en jeu.
Rien que ça,
vous voyez, on n'a pas peur des défis. On se retrouve demain?
Avec plaisir.
À demain.
Journée. Il est 8h. Le journal présenté par Antoine Drou.
Quel match, quel public. Roger Federer s'est qualifié cette nuit en 5-7 pour les quarts de finale de l'US Open. Le Balois a battu le Russe Igor Andreev en 3h30. Le score 6-7, 7-6, 6-3, 3-6, 6-3.
Dans des matchs comme ça, c'est clair qu'il y a un énorme de pression et j'aime pas trop être dans les difficultés sur service et devoir affronter des balles de break. Mais en même temps, je veux dire, c'est exactement pour ça que tu veux être là. Que les spectateurs, que toi-même aussi, tu passes des moments difficiles. Et après, quand tout est fini, en fait, c'est un sentiment très grand et ça, tu peux tout lâcher. Aujourd'hui, j'ai montré beaucoup d'émotions, mais parce qu'il y avait vraiment des échanges très sympas.
En quart, Roger affrontera le Luxembourgeois Gilles Muller. Sacré parcours d'ailleurs pour Gilles Muller. 130e joueur mondial issu des qualifications. Il a éliminé Nikolaï Davydenko. Rien que ça.
La convention républicaine décolle enfin après quelques ratés. Hein.
Oui, il y a eu l'ouragan Gustave et puis la tempête provoquée par les casseroles de Sarah Palin, la colistière de John McCain. Cette nuit, le président George Bush et l'ancien démocrate Joe Lieberman ont dit tout le bien qu'ils pensaient de leur favori. Joe Lieberman a donc résolument tourné sa veste. C'est désormais un allié indéfectible de John McCain.
This is no ordinary election.
Ce n'est pas une élection ordinaire et faites-moi confiance, John McCain est un candidat hors du commun.
This year.
Cette année, votez pour la personne qui, selon vous, sera la meilleure pour le pays, pas pour le parti auquel il vous est arrivé d'appartenir. Je suis ici pour soutenir McCain parce que le pays est plus important que le parti.
Dimitri Medvedev a décidément le sens de la formule. Il a qualifié hier le président géorgien de cadavre politique. Mais que l'on se rassure, le président russe affirme que Moscou va continuer de livrer du gaz vers l'Europe. Ouf. Daniel Zappelli dira aujourd'hui s'il classe oui ou non l'affaire Kadhafi. Le choix s'offre au procureur genevois après le retrait hier de la plainte pénale que les deux domestiques avaient déposée contre Hannibal Kadhafi et son épouse. Ali Delali est directeur du bureau Panapresse à Tripoli, c'est une agence proche du pouvoir libyen. Il estime que cette affaire ne devrait pas laisser de traces dans les relations entre la Suisse et la Libye.
Je ne peux pas penser que ça va affecter sérieusement les relations libyo-suisses qui sont des relations très particulièrement fortes, parce que la Suisse n'a jamais eu de problème avec la Libye. C'est tout simplement un accident de parcours, ou une pluie d'été comme on dit chez nous.
Répression, le mot n'a l'air de rien, dit comme ça, mais il est sur le point de mettre sans dessus dessous le Parti Socialiste Suisse. Les camarades, aux diverses sensibilités, s'écharpent sur la politique sécuritaire que doit mener, ou pas, le PS. Le conseiller national André Daguet se félicite malgré tout de la vitalité du débat interne.
Heureusement que s'il y a des problèmes de fond à régler à l'intérieur du Parti Socialiste, on a encore des débats de grand format. Et puis, moi, je suis très fier de cela.
Connaissez-vous Chasseral? Chasseral, ses sentiers pédestres, sa faune, sa flore, son antenne géante, rouge et blanche. Eh bien, désormais, Chasseral a son label. La Confédération a failli hier du parc naturel de Chasseral, le seul parc labellisé de Suisse romande.
Et la gauche a perdu une bataille hier au Grand Conseil vaudois.
C'était une bataille à propos de la réforme fiscale cantonale. Les déductions aux entreprises et aux actionnaires ont été augmentées. Celles des familles ont été réduites. De quoi énerver la gauche, donc, qui menace de lancer un référendum si ces options sont confirmées mardi prochain lors du troisième débat. Grégoire Junot, chef du groupe socialiste au Grand Conseil vaudois.
Ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que les familles de la classe moyenne et des milieux modestes sont une fois de plus les dindons de la farce. Nous avions en commission compte tenu des allègements importants qui avaient passé au premier débat au Grand Conseil pour ces catégories-là. Aujourd'hui, on se retrouve avec des rabais très importants pour les gros actionnaires et pour les multimillionnaires et presque rien pour les familles.
Tendez bien l'oreille, vous connaissez peut-être cette voix.
In the not too distant future, warfare is the basis of the global economy.
De temps en temps aussi.
De temps en temps, même très 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 souvent. Cet organe impressionnant, avouons-le, c'est celui de Don LaFontaine. Don LaFontaine a prêté sa voix à des dizaines de milliers de spots de pub aux États-Unis et surtout à plus de 5000 bandes-annonces de films. Don LaFontaine est mort des suites d'une maladie des poumons. C'est ce qu'a annoncé hier son agent. Il avait 68 ans.
Metal Gear Solid 4, Guns of the Patriots.
J'ai appris son existence le jour de son décès.
Du soleil encore ce matin, mais ça ne durera pas. Les nuages donneront les premières averses en fin d'après-midi sur le bassin lémanique et le long du Jura. Les précipitations seront parfois abondantes la nuit prochaine. Demain, pas terrible, gris et maussade. Le Grand 8 procré ce matin avec Fatih Derder. Faudra faire vite, il reste moins d'une demi-heure.
Je vous remercie, Antoine. Effectivement, procréation à la une de ce Grand 8, puisque les Suisses retrouvent visiblement le goût de la famille. Vous faites des enfants de plus en plus. D'accord, le niveau n'est pas folichon. On le disait, on est à un peu moins d'1,5 enfants par femme. Mais depuis 2001, les naissances sont en augmentation chaque année, avec une concentration et une accélération dans les centres urbains, Zurich ou l'arc lémanique. Entre Lausanne et Genève, on enregistre une augmentation proche de 9, voire 10%, presque un début de baby-boom, décryptage d'une tendance de fond ou simplement passagère dans ce Grand 8. Et nous prendrons de la hauteur au niveau planétaire, combien d'êtres humains sur Terre dans quelques siècles. Globalement, on le disait tendanciellement, la plupart des pays au monde vivent une chute des naissances. L'occidentalisation des pays en développement réduit le nombre de ces naissances, même si certains experts prévoient au contraire un retour à la hausse de la fécondité en Europe. Alors, demain, la fécondité à la hausse ou à la baisse, c'est l'avenir de l'espèce humaine qui est en jeu, notre envie de nous reproduire sous la loupe du Grand 8. Avec nos invités ce matin, un géographe, Pierre Desmontet, responsable du développement des données géostatistiques chez Microgis, un économiste, Beat Kapler, avec nous, l'œil officiel de Berne, enfin de Neuchâtel, devrais-je dire, de l'Office fédéral de la statistique, Stéphane Cotter, chef de la section démographie et migration à l'OFS, et une philosophe, Martine Libertino, philosophe et écrivain. Et tout d'abord, ce fait, cette nouveauté, cette analyse, Pierre Desmontet, il y a visiblement une, on va pas appeler ça un baby-boom, mais une forte augmentation de naissances dans les zones urbaines en Suisse actuellement.
C'est la spécificité qu'on note depuis 2001 et qui s'est un tout petit peu accélérée ces 3-4 dernières années. On a vraiment atteint un plancher dans la natalité en Suisse un peu après 2000. Et puis, ce plancher au niveau suisse, il est resté pratiquement au même niveau. Mais en revanche, dans effectivement quelques cantons romands, notamment Vaud et Genève, et un ou deux cantons alémaniques, notamment Zurich, on constate que depuis, il y a effectivement eu un rebond qui fait que, par exemple, dans le canton de Vaud, après, on est de nouveau à peu près à 7500-7600 naissances par année en 2007, ce qui est à peu près 1000 de plus que ce qu'on avait en 2002, sauf erreur. Donc il y a effectivement un phénomène qui se produit et il y a aussi de l'évidence anecdotique, hein, ce qu'on appelle des gens qui disent qu'on commence à avoir de temps en temps des salles de maternité, par exemple, qui sont débordées parce qu'il y a juste trop de naissances, c'est des effets de crête, évidemment. C'est anecdotique, mais il y a des signes comme ça qui montrent qu'on va effectivement vers un léger rebond qui va évidemment avoir des enjeux dans quelques années, notamment en termes de politique, de l'éducation, de construction et d'ouverture de classe.
Oui, le terme de baby-boom, c'est un terme que le Blick n'a pas hésité à utiliser la semaine dernière, peut-être un peu excessif, mais c'est vrai qu'on voit les chiffres, par exemple, pour Genève, Stéphane Cotter, l'année dernière, chez les femmes, les Suissesses notamment, une augmentation de 9%. Comment vous expliquez ça à l'OFS ? D'ailleurs, c'est pas reproduit sur tout le territoire helvétique, hein, déjà, c'est important à préciser.
Oui, tout à fait. Il y a des différences entre les cantons. En fait, certains cantons ont plus d'augmentation de naissance que d'autres cantons. Comment expliquer cela? Bon, c'est toujours difficile d'expliquer l'évolution de la fécondité, soit à la baisse, soit à l'augmentation. Ce qu'on peut dire cette fois, c'est qu'on remarque clairement qu'il y a un effet de rattrapage. C'est-à-dire que les femmes qui ont des enfants actuellement sont les femmes plus âgées. Donc c'est comme s'il y avait eu un report des naissances de certaines femmes à un âge plus élevé. Pour vous donner un chiffre, dans les années 70, 2/3 des naissances étaient le fait de mères de moins de 30 ans. Actuellement, c'est le contraire. 2/3 des naissances sont le fait de mères de plus de 30 ans. Donc il y a des femmes qui n'ont pas eu d'enfants dans leurs premières années de fécondité et qui ont maintenant des enfants. Donc il y a un effet de rattrapage et en fait les générations de femmes qui mettent maintenant des enfants au monde sont les femmes qui sont nées dans les générations très nombreuses des années 1963-1964. Donc il y a un effet en fait de génération dans cette augmentation.
Ce qui paraît paradoxal et difficile à comprendre, c'est que ce soit sur les centres urbains. On imaginait plutôt des familles nombreuses dans les zones, entre guillemets, rurales. Pierre Desmontet, Stéphane Cotter, je ne sais pas lequel veut se prononcer.
Je veux bien me lancer là-dessus. C'est vrai que si on regarde, il y a une vingtaine d'années, les cantons catholiques, notamment ruraux, avaient des taux de natalité nettement supérieurs.
C'est l'image qu'on a, en tout cas.
À ceux des cantons c'était urbains. Eux, ils ont terminé leur transition démographique, c'est-à-dire qu'ils sont arrivés exactement au même niveau que ce qu'on avait dans les villes il y a 20 ans. En revanche, dans les villes, on a eu une forte immigration, notamment. On a une présence étrangère qui ont des fois des comportements démographiques un peu supérieurs aux nôtres, qui font que, du coup, c'est effectivement sur ces centres urbains, ça on l'a constaté peut-être depuis 2000, 2001, 2002, quand on a travaillé notamment avec Martin Schuller sur l'Atlas des mutations spatiales de la Suisse pour le compte de l'OFS, on avait constaté que dans ces centres urbains, notamment en Suisse romande, qui est très fortement concernée par l'immigration, il y avait un rebond qui est probablement dû à ça. Ce qui fait qu'on a inversé le truc. Effectivement, maintenant, Zurich, Lausanne et Genève ont effectivement des taux de natalité qui sont un peu supérieurs de ceux des cantons catholiques.
Mais je comprends toujours pas pourquoi, c'est comme des zones dans lesquelles les femmes sont actives, les couples plutôt actifs. Avec, a priori, on a plutôt une image de peu d'enfants, non, Stéphane Cotter?
Non, mais ce que disait tout à l'heure, le point par rapport à l'immigration est très important. En fait, les centres urbains sont les centres d'immigration. Et on constate ensuite qu'en Suisse, que la fécondité des femmes de nationalité étrangère est plus élevée que la fécondité des femmes suisses.
Oui, l'augmentation, par exemple, sur Genève, c'est chez les Suisses, c'est 9%. Oui, donc là, il y a quand même un paradoxe. Vous l'expliquez ?
Bon, le paradoxe, on ne va pas très compliquer le débat au niveau du calcul des indices de fécondité, mais ce qui se passe aussi, c'est qu'on a énormément de naturalisation ces dernières années. Donc, l'augmentation de la fécondité des femmes de nationalité suisse, c'est aussi en partie des femmes de nationalité étrangère.
Béatrice Kapler.
D'ailleurs, les régions périphériques, pour y revenir, sont aujourd'hui des régions plutôt vieillissantes. Ceci a tout à fait changé. Toutes les politiques régionales de soutien aux régions ont échoué. C'est un rapport de l'ETA de Zurich qui le dit. La dépopulation n'a pas pu être arrêtée. Donc, la vitalité des jeunes, c'est plutôt du côté des villes. C'est peut-être une chose. L'autre chose, on a constaté avec le recensement de 2000 qu'entre les grandes villes du plateau et les Alpes, il s'est constitué une zone périurbaine à forte densité de familles. Ça va de Bulle vers Fribourg, vers Thun, vers Schwyz et Ville-Turgovie. Donc, c'est aussi un phénomène. Et peut-être pour y revenir maintenant à la décision quand avoir un enfant, ce qui a été dit peut-être par M. Cotter, peut-être encore mis en évidence d'une manière beaucoup plus criante, toutes les années, la moyenne d'âge des femmes qui avaient des enfants, après leur premier enfant, était de 2 mois plus tard. Donc, ceci seulement a fait disparaître un sixième des naissances, en quelque sorte. 2 mois sur 12, n'est-ce pas? On a ajourné. Et maintenant, justement, on ne peut pas le faire à l'infini, vu la montre biologique des femmes, comme on dit en allemand. Ça revient maintenant dans la crèche. Il faut quand même voir que si seulement la tendance s'arrête de ce report de 2 mois, on a une augmentation d'un sixième. Et s'il se renverse, ce report, on aura une augmentation encore plus forte.
D'accord. Sur la tendance, alors là, question fondamentale, est-ce que on est simplement face à un rebond technique, ou y a-t-il une tendance de fond vers un retour de la natalité, de la fécondité en Suisse, Stéphane Cotter?
Bon, c'est difficile, c'est encore une fois difficile à répondre, parce qu'on n'est pas au clair sur les causes, en fait, de cette augmentation. Ce qu'on constate par ailleurs, c'est que cette augmentation a lieu dans tous les pays occidentaux, en fait. Enfin, dans la plupart des pays occidentaux développés. Par exemple, en Europe, on constate que cette augmentation a lieu en Italie, en Espagne, qui étaient des pays traditionnellement, ces dernières années, à très faible fécondité. Cette augmentation a lieu en Allemagne, on a constaté également au Japon cette année. Donc cette augmentation a l'air d'être plus large qu'uniquement au niveau de la Suisse. Maintenant, est-ce que ça va se poursuivre? Ça, c'est toujours la question à laquelle il est très difficile de répondre.
Pierre Desmontet.
Ce qu'on constate, mais on ne sait pas où est le lien de causalité, mais c'est vrai qu'on constate une corrélation quand même avec le contexte économique et de conjoncture économique et puis ces taux. C'est vrai que les taux maximaux qu'on a eu en Suisse depuis 1973-74 et la fin du baby boom en tant que tel, c'était à la fin des années 80, c'est-à-dire au moment où l'économie était absolument florissante. Et on est dans une période, en tout cas depuis 2002, de forte croissance économique. Alors, c'est tentant de faire le lien. Et donc, finalement, la question, on pourrait peut-être y répondre si on arrivait à savoir exactement concrètement quel va être le contexte économique de ces prochaines années et décennies.
Bert Kaplan.
J'ajoute peut-être quelque chose de tout à fait non économique. On a vu ces derniers temps quand même aussi peut-être une évolution des mentalités, dans le sens que beaucoup d'icônes du sport, des loisirs, du film, etc., comme Madonna et autres, ont eu des enfants à grand renfort.
Où on adopte un certain nombre aussi. Hein.
Brad Pitt, non pas si nombreux, mais ça peut quand même donner aussi une idée de la modernité d'être in pour avoir des enfants.
Vous voyez, Stéphane Cotter, ensuite Martine Libertino.
Juste une chose pour revenir à ce que disait M. Kapler, ce qu'il faut voir aussi, c'est le contexte général. C'est vrai qu'en Suisse aussi, on parle énormément actuellement de famille, de politique familiale, etc. Et ce contexte, enfin, cette évolution des mentalités
ça
aussi.
Ça donne envie de faire des bébés.
Oui, tout à fait. Je
ah
crois,
bon
oui.
Un côté psychologique, même des débats politiques entre un UDC et un membre socialiste donnerait envie de faire des enfants.
Non, mais je crois que le fait qu'on parle de ces mesures, qu'on fasse plus attention à la famille, en fait, crée un contexte favorable, en fait, à la fécondité.
Martine Libertino.
Bon, je pense qu'il faudrait peut-être revenir au pourquoi de la non-natalité, hein, puisqu'on a parlé aussi de finalement, ça se passe, cette histoire se passe depuis 2-3 ans seulement. Et bon, on pourrait se placer du point de vue, je dirais, plus émotionnel, hein, pour voir un petit peu comment les gens fonctionnent dans notre société. Si on regarde un peu la mentalité, la nouvelle mentalité qui est en train de naître depuis quelques années, en particulier chez les femmes, c'est que, bon, d'abord, on sort d'une période qui n'est pas encore terminée, qui est le retour à une liberté, hein, dans ce sens que depuis les années 68, il y a eu quand même un changement de mentalité dans ce sens-là. Et donc, ça a mené les femmes aussi à avoir un autre regard sur leur vie, un autre regard sur la famille. Et je vois beaucoup, par exemple, de femmes qui viennent me voir, qui acceptent l'idée, par exemple, de ne pas avoir d'enfants depuis quelques années, qui n'hésitent pas à être en dehors des conventions. Parce que si on regarde ce qui se passait donc dans les années précédentes, en général, la femme, sa vie, c'était faire. Bon, je caricature un peu, mais en fait, c'était ça. C'était
l'homme travaillait, c'était la femme restait à la maison,
se marier,
faisait des
faire
enfants.
Des enfants, etc. Donc, on disait à la femme, mais t'as plein de qualités, mais surtout garde ton intuition, garde tes sentiments. Tu es faite pour ça, etc.
Ce qui reste un modèle dans pas mal de pays en développement et notamment de pays musulmans.
Oui, mais ça reste aussi encore un modèle ici. Hein, oui. Je veux dire, les mentalités doivent encore changer. Mais enfin, c'est vrai que cette vision de la femme a mené notre société à lui demander finalement de se marier, d'avoir des enfants parce que si elle ne le faisait pas, d'abord elle avait une pression psychologique sur elle et ensuite elle-même elle avait un regard sur elle qui n'était pas positif. Alors qu'aujourd'hui il y a de plus en plus de femmes qui ont envie de réussir leur vie, qui ont envie de se développer aussi en dehors d'une vie familiale. Ce qui fait qu'on voit de plus en plus de femmes maintenant, comme vous le disiez tout à l'heure d'ailleurs, on voit de plus en plus de femmes maintenant qui songent à avoir des enfants autour de 30, 35 ans, 40 ans, ce qui n'existait pas auparavant.
Ce qui plaiderait plutôt donc là, visiblement, pour une lecture du rebond technique dont je parlais tout à l'heure. La tendance de fond, et c'est vrai, on en parlait il y a une année avec Emmanuel Todd, qu'on avait reçu à l'occasion de la publication de son livre « Le rendez-vous des civilisations », passionnant bouquin d'ailleurs, que je vous recommande, sur lequel la thèse finalement c'est de dire que le modèle occidental, l'industrialisation du monde tend à une baisse fondamentalement de la fécondité. Ce qui est plutôt inquiétant, non ?
Alors, ça dépend comment on voit la chose. Hein. Dans ce sens que, bon, ça peut être inquiétant si on regarde ça d'une manière caricaturale, mais en même temps, ça nous montre aussi, cela nous montre aussi que on ne fait pas des enfants pour faire des enfants, à savoir que là aussi, je vois beaucoup de gens qui se posent des questions sur la nature de l'éducation et qui ne veulent pas avoir des enfants simplement parce que ben, un enfant c'est comme ça, on le fait, plus tard il va s'occuper de nous, mais parce que ils veulent aussi, il y a une remise en question aussi de l'éducation qui fait que les gens font des enfants parce qu'ils ont envie de permettre à un être de se développer. Donc là aussi, il va y avoir une réflexion sur l'enfant, sur le fait d'avoir des enfants.
Mais globalement, quand une société progresse, le niveau d'éducation s'élève, le niveau de liberté aussi également, de liberté d'expression, pour les femmes également, le nombre d'enfants a tendance à baisser. Et là, les pays en voie de développement, on voit une baisse de la natalité, Stéphane Cotter.
Bon, là en fait, il faut mettre cette évolution dans le contexte plus large de la transition démographique, en fait. Hein. Il faut lier ça aussi à la baisse de la mortalité. Donc c'est un phénomène par lequel une société évolue, c'est-à-dire qu'on a tout d'abord une baisse de la mortalité suite à la baisse de la mortalité, on a une baisse de la fécondité. Mmh. En fait, c'est comme s'il y avait, c'est un peu ce que vous disiez tout à l'heure, c'est un transfert de quantité vers qualité aussi. C'est-à-dire que les enfants survivent, donc on a moins besoin d'avoir d'enfants pour se reproduire. Et il y a automatiquement une baisse de la fécondité. Mais pour revenir à un point très important que vous avez abordé tout à l'heure, la fécondité. Et je crois que ça, c'est un point très important pour l'avenir de la fécondité dans les pays développés. En Suisse, actuellement, il y a 25% de femmes qui n'ont pas d'enfants. Et parmi les femmes qui ont un niveau universitaire, c'est 40% de femmes qui n'ont pas d'enfants. Et cette évolution de la proportion de femmes qui n'auront pas d'enfants du tout sera déterminant, en fait, pour l'évolution future de la fécondité.
Mais il y a un autre problème aussi, c'est le problème des divorces, à savoir que les gens se marient mais ne restent pas forcément très longtemps ensemble. Donc, on n'a pas forcément non plus le temps de créer des grandes familles, hein, puisqu'il y a beaucoup de séparations. Et puis, il y a aussi une autre chose, à savoir que...
Non, mais j'ai pas compris en quoi c'est un problème, le divorce. En l'occurrence, on peut divorcer, se remarier, refaire des enfants.
Oui, mais justement, c'est pas forcément le cas.
D'accord. Hein.
C'est pas forcément le cas, parce que beaucoup de femmes se divorcent et elles sont seules, doivent élever leurs enfants, et donc ne vont pas forcément recréer une famille ailleurs.
Donc, le divorce, c'est plutôt un facteur de baisse de fécondité.
Ça peut être un facteur de baisse de fécondité.
Dit très schématiquement, le progresser, c'est faire moins d'enfants ? Le progrès, l'industrialisation, c'est une baisse d'infertilité, Béat Kapler.
On a constaté aussi dans les pays du Sud qui avaient beaucoup d'enfants, justement, que cette transition démographique se faisait. C'est-à-dire, après la baisse de la mortalité et la continuation, d'abord pendant un certain temps, pendant 20 ans, peut-être, de la fécondité, il y a une explosion de la démographie, de la population. Mais après, justement, les gens se rendent compte que, justement, les enfants survivent. C'est une chose. L'autre chose, on constate que la scolarisation... rend coûteux les enfants. Avant, dans une société très primitive, les enfants, à partir de 5 ans, collectionnent du bois, mènent de l'eau, gardent les vaches, etc. Donc, ils sont un facteur de prospérité. Si l'État, effectivement, les prend à l'école, ça coûte. Et ils rapportent plus. Et il semble que c'est aussi très important dans la décision des parents pour avoir 10, 12, 15 enfants. Ça change les mentalités. Et pour revenir peut-être dans les pays développés, moi je pense que je prendrais volontiers la balle au vol de Madame Libertino. Ce qu'elle a décrit, que les femmes justement ne sont plus à la maison, ont une vie professionnelle et les femmes universitaires, comme on a vu, à 40%, pas d'enfants, etc. De plus, il faut peut-être voir un nouveau tournant. Maintenant, l'économie offre aussi aux hommes des postes très variables, flexibles dans le temps. Et moi, je constate dans mes conférences sur mon avant-dernier livre sur la famille que beaucoup de jeunes couples disent « Ah oui, maintenant on a pu avoir un enfant parce que l'homme aussi peut s'en occuper. » Et la femme, qui jusqu'à présent cumulait les rôles si elle voulait avoir d'enfants, est soulagée et elle consent d'avoir des enfants. Moi, je pense que ce changement du type d'activité des hommes est extrêmement important dans la nouvelle vague qui fait des bébés.
Que les hommes passent à temps partiel, quoi.
Oui, travaillent d'une manière flexible, et les femmes aussi. Il ne faut même pas réduire à 50%, mais on peut travailler d'une manière beaucoup plus flexible, quitte à se relayer autour de la crèche.
Stéphane Cotter.
Oui, ça c'est un point très important. On constate actuellement, par exemple en Europe, que les pays qui ont des taux de fécondité les plus élevés sont les sociétés les plus égalitaires, en fait. Hein. C'est-à-dire où la répartition des rôles est le plus égalitaire entre l'homme et la femme. C'est les pays nordiques, par exemple, et c'est ces pays-là qui ont en fait des taux de fécondité les plus élevés actuellement.
Pierre Desmonté.
C'est vrai, d'un autre côté, c'est vrai que c'est des évolutions qui se passent, mais elles se passent sur l'espace d'une génération à peu près. Pour que ces comportements-là montent, on a vu typiquement en comparant différents recensements, par exemple que le temps partiel et l'introduction du temps partiel chez les hommes, eh bien, elle augmente en ce moment, mais les couples mariés avec des enfants qui sont les deux à temps partiel sont encore très minoritaires. Donc c'est des évolutions qui vont se faire sur le long terme et finalement sur les mêmes laps de temps que l'évolution des grands trends en termes de démographie et de natalité. Ceci dit, il faut peut-être pas non plus, disons, exagérer l'importance de la natalité par rapport aux autres phénomènes démographiques qui vont toucher la Suisse ces prochaines années, notamment à l'heure actuelle, et on l'a vu lors du dernier communiqué de presse, la majeure partie de la variation de population en Suisse, elle reste sur la migration, et notamment sur la migration internationale.
Martine Libertino.
Oui, pour rebondir justement sur cette histoire des hommes qui actuellement se remettent en question, il y a aussi de plus en plus d'hommes qui restent à la maison. C'est même pas forcément du temps partiel. C'est qu'il y a des hommes maintenant qui se disent moi aussi, je suis fait pour élever des enfants. Et il y a des femmes aussi de plus en plus, parce qu'on a parlé des hommes, il faut aussi parler des femmes qui se remettent en question et qui sortent de ce carcan de la femme au foyer et qui acceptent aujourd'hui sans honte de faire carrière. Donc là aussi, il y a en fait il y a un rapprochement, un équilibre entre l'homme et la femme qui fait que on s'approche plus du respect de la personnalité et non pas du respect du sexe finalement, hein, des personnes.
Et qui passe par quoi, Béat Kapler? Par la bonne volonté simplement des entreprises ou des mesures contraignantes et une prise de conscience du monde politique?
Non, je pense pas. C'est la bonne volonté des entreprises, la pénurie du marché, sur le marché du travail de gens qualifiés. Alors les entreprises sont d'accord de faire varier le pensum de ces gens, ou bien justement la manière, le caractère même du travail change. Beaucoup des travaux tertiaires se font au fur et à mesure des 24 heures, donc on peut partager comme on veut. Beaucoup de travaux se font à la maison, beaucoup de gens se mettent à leur compte. C'est en augmentation aussi en Suisse. Il y a 14% des personnes actives en Suisse qui travaillent à leur compte ou dans une famille travaillant à son compte. Il y a vraiment des changements aussi économiques qui permettent ce changement, ce rapprochement des rôles qu'a souligné Mme Libertino.
Question de fond, faut-il réellement se battre de toute manière pour relancer la fécondité? Parce que finalement, si on prend un peu de hauteur au niveau planétaire, Stéphane Cotter, le monde n'est pas infini, les ressources, on en parle assez souvent ces derniers temps, ne sont pas infinies. Il doit y avoir quand même un seuil de développement démographique qui peut être excessif aussi, non?
Bon, ce qu'on peut dire là, c'est qu'en fait, c'est vrai que je crois qu'il n'y a pas d'objectif en termes de natalité. C'est-à-dire
surtout quand on voit l'espérance de vie qui augmente en plus.
Tout à fait, ne devrait pas avoir un objectif. Mais ce qui est important de voir, c'est qu'il faudrait permettre aux gens d'avoir le nombre d'enfants qu'ils souhaitent. Et là, je crois que c'est l'objectif.
Ce qui est le cas dans la majorité des pays.
Bon, dans les pays européens, la Suisse par exemple, les souhaits de fécondité sont beaucoup plus élevés que la fécondité observée. Et ça, on le voit dans nos enquêtes. C'est-à-dire que les souhaits de fécondité sont plutôt autour de 2 enfants. Par famille que 1,4 ou 1,5. Mais actuellement, les conditions cadres ne permettent certainement pas aux gens de réaliser ces souhaits de fécondité. Et je crois que c'est là qu'il y a quelque chose à faire, c'est-à-dire de permettre aux gens, en fait, comme on veut permettre à l'économie de se développer dans un cadre idéal, d'avoir des conditions cadres qui permettent aux gens de réaliser leurs souhaits de fécondité.
Est-ce que c'est uniquement les conditions cadres ou je ne sais pas, peut-être Mme Libertino ou Béat Kapler, ou est-ce que dans le fond, il y a peut-être simplement un décalage entre la vie qu'on rêve et une autre vie qu'on souhaite réaliser, avoir 15 enfants ou être chef d'entreprise, enfin bref, il y a quand même là aussi peut-être un décalage entre la vie souhaitée et les réponses qu'on donne à un sondage et ensuite celles qu'on met en pratique, bêtement.
Bon, moi je dirais qu'il y a surtout un décalage entre ce que l'on souhaite et ce qu'on croit être possible. Parce que finalement on vit dans une société où on se dit que être heureux c'est une utopie. Bon, tout le monde souhaite être heureux, tout le monde veut vivre le grand bonheur, le grand amour, etc. Mais en même temps on se dit on se contente de ce qu'on a. Et finalement vous avez posé la question tout à l'heure, d'évolution démographique. Moi je parlerais plutôt d'évolution technologique, parce que finalement le problème, est-ce que ça sera le nombre d'enfants qui vont naître? Ou est-ce que ça sera, pour la sauvegarde de notre planète, hein, puisque vous avez quand même parlé de ça, ou est-ce que ça sera une vision de l'évolution, d'une évolution matérielle et technologique qui soit conforme au bien-être de l'être humain? Parce que c'est là où il faut se poser des questions, au fond. Si on n'est pas en équilibre sur cette Terre, c'est aussi parce qu'on est trop dans un état d'esprit d'individualisme à outrance. Il y a beaucoup d'égoïsme, il y a moins de capacité d'être capable de penser à la communauté. On a, alors au nom de la liberté, c'est bien la liberté, parce qu'il fallait absolument arriver à cette liberté, mais en même temps elle a été mal interprétée. Donc actuellement on est plutôt dans une relation à la société qui est je m'occupe de moi et ensuite les autres ça m'est égal.
Oui, lorsqu'on observe un tout petit bébé qui est né et disons l'énergie, les matériaux qu'il consomme, c'est spectaculaire. Ici en Europe et aux États-Unis. Donc si les Européens, les Américains s'énervent ou s'alarment devant une vague de naissance au Maroc ou au Niger où il y a presque encore, je crois, 7 enfants par femme, c'est tout différent. Un nouveau-né ici consomme au moins 10 fois, peut-être 20 fois plus qu'un nouveau-né au Niger, ou même plus. Donc, on a, à juste titre, commencé à mettre en relation la capacité de porter les humains de la Terre et la vague de fécondité. Et je pense que nécessairement, ça avancera vers un niveau de vie très élevé, avec des humains qui sont bien choisis et à la naissance desquels on a bien réfléchi, après une décision mûre, et qui ensuite bénéficient d'une éducation performante, qui ont une perspective professionnelle satisfaisante, etc. Voilà, ce belle image sera probablement, et je l'espère, le futur de l'humanité. Et alors, 1,5 enfant par couple ou par femme suffisent pour un large laps de temps. La Chine en fait l'expérience maintenant. Elle aura un problème de vieillesse au niveau des rentes vieillesse, etc. Mais elle a quand même donné l'exemple comment on peut aspirer à une expansion économique tout en freinant par le levier démographique.
Donc on n'a pas nécessairement besoin de plus d'1,5 enfants, si je vous comprends bien.
Pendant un certain temps, justement pas. Il y a bien sûr des démographes comme Chanu qui disent que l'extinction de l'humanité grâce à ces mécanismes, grâce à la richesse, grâce à la technologie, etc., est plus vraisemblable que la surpopulation du monde. Pour l'instant, on est encore loin de là. Mais bien sûr, si tout le monde, tous les pays accédaient à notre niveau de vie et avaient un taux de fécondité de 1,3%, 1,5%, après 200-300 ans, l'humanité serait peut-être réduite de 2/3, pas à 2/3, mais de 2/3.
L'extinction de l'humanité par simple baisse de la fécondité, c'est un scénario que les démographes envisagent? C'est une possibilité? C'est un risque?
Je vois mal que ça puisse être un risque, mais il y a quelque chose d'intéressant dans ce qui a été dit, et j'aimerais rebondir sur ce que Stéphane Cotter a dit il y a quelques minutes, sur l'importance économique que ça a, cet effet-là. En restant égoïstiquement suisse, et dans les 20 ou 30 prochaines années, nous, on est effectivement maintenant confrontés à ce problème de vieillissement, où ce 1,5 pose un problème, parce qu'à partir de l'année prochaine, les cohortes, donc les classes d'âge du baby-boom, commencent à entrer à la retraite. Et comment on va financer, pendant les 30 années qui viennent, ce passage à la retraite du baby-boom? Plus on a d'enfants, plus on a de générations, entre guillemets, potentiellement actives pendant que cette transition-là se met en place, moins ce sera pénible, disons, de gérer socialement en fait, le coût des assurances sociales. Et d'une certaine manière, une Suisse maintenant qui reste à peu d'enfants, c'est une Suisse qui a une bonne chance d'être paupérisée dans 20 ou 30 ans par rapport à ce qu'elle est maintenant.
Avec tout de même, on le disait, donc, un retour de la fécondité. On en parle dans ce Grand 8 et d'ici quelques instants, juste après les titres d'Antoine Roux, en conclusion de l'émission, on va dresser un portrait de la Suisse d'ici 20, 30 ans. Combien d'habitants et accessoirement, où mettrons-nous tous ces habitants pour peu que l'augmentation continue? Mais là, tout de suite, il est 8h31, et le rappel d'actualité, c'est Antoine Brou qui
le
présente.
Le pétrole se rapproche de la barre des 100$, à nouveau. Le baril est momentanément descendu sous les 105$ hier, avant de clôturer à plus de 109$ à New York. Roger Federer s'est qualifié cette nuit dans la douleur pour la suite du tournoi de l'US Open. Le Balois a battu le russe Igor Andreev 6-7, 7-6, 6-3, 3-6, 6-3. Il affrontera le luxembourgeois Gilles Muller au prochain tour. Les Vaudois se prononceront à leur tour sur l'interdiction de fumer dans les lieux publics. Ce sera le 30 novembre. Au choix, une initiative qui prône l'interdiction totale ou alors un contre-projet qui préconise la création de fumoirs. Météo, la matinée sera plutôt ensoleillée, mais les conditions se dégraderont par l'ouest en cours d'après-midi. Le Valais sera épargné pour un temps seulement. Il fera au maximum 26 degrés. La journée de demain s'annonce grise et humide.
Je vous remercie Antoine Drou. 8h32, Stéphane Cotter, la Suisse dans 20 ans, en comptant la fécondité et l'immigration, c'est combien d'habitants?
Alors selon nos prévisions, enfin c'est pas des prévisions, selon nos scénarios, c'est-à-dire les hypothèses qu'on pose en termes de fécondité et de migration, nous on prévoit que la population suisse devrait stagner aux environs de 8,5 à 9 millions d'habitants.
Il y aura à un moment donné une stagnation.
D'après nous, oui, parce qu'en fait le problème qu'il y a, c'est les moteurs de la croissance. Donc un des moteurs principaux de la croissance, c'est le nombre de naissances moins le nombre de décès. Dans le futur, on prévoit pas une augmentation très importante du nombre de naissances, parce que même si la fécondité augmente, le nombre de femmes en âge d'avoir des enfants va diminuer ces prochaines années. Parce qu'en fait, les générations qui vont avoir des enfants ces prochaines années, c'est les générations d'après Baby Boom, qui sont des générations peu nombreuses. Donc ça dépendra beaucoup, en fait, des migrations. Et là, c'est vrai qu'on a beaucoup d'incertitudes en termes d'hypothèses au niveau des migrations. Mais ce qu'il faut dire pour les migrations, c'est que la Suisse va se trouver dans un contexte de compétitivité pour les migrants aussi. C'est-à-dire que l'ensemble des pays européens auront besoin de migrants, parce que l'ensemble des pays européens auront une population active en diminution. Donc la Suisse sera un un des pays d'immigration parmi d'autres pays d'immigration. Donc, quel sera
ce
le résultat ?
Ce qui risque de faire varier quand même donc le chiffre, hein, Pierre Despontes.
C'est-à-dire, moi, j'ai tendance, évidemment, en tant que personne comme ça, je peux m'exprimer, disons, au feeling, un peu comme ça. Toutes les explications qui viennent de donner sont justes. C'est clair qu'on va avoir moins de cohortes. J'ai le sentiment comme ça que la Suisse est très bien placée en compétition internationale parce que la structure dans son économie fait que sa structure économique fait qu'elle est relativement attirante. J'ai le sentiment comme ça qu'on va avoir plus d'immigration aussi parce que on est un pays qui a toujours valorisé énormément son économie et qui suivra quand l'économie demandera une immigration plus forte. Et donc on va être un petit peu supérieur peut-être à ces scénarios-là. Ce qui est important de dire, c'est qu'une Suisse à 8,2
plutôt autour de 10 millions.
Ouais, ça c'est à long terme. Alors, je dirais sur 20 ans, non. Dans 20 ans, non. Effectivement,
on les met où voilà, ces 10 millions d'habitants.
Le grand enjeu entre 8,2 et 9,5, c'est que c'est pas la même proposition pour le pays en termes d'infrastructure. Déjà maintenant, j'ai le sentiment que l'infrastructure elle est limite. On en parlait lundi, elle est relativement limitée. Si on monte peu, à partir de maintenant, on peut encore gérer cette infrastructure limitée. Si on monte beaucoup, il va vraiment falloir se poser des questions difficiles qu'on se pose pas dans ce pays en termes de où ces gens habitent, où ces gens travaillent, comment on les déplace d'un lieu à l'autre. Et ça, pour l'instant, la Suisse, elle est maintenant sur une infrastructure qui est superbe, mais qui est vraiment en surcapacité.
À l'aube d'un défi démographique et politique, hein, Beat Kapler.
Effectivement, et le défi politique est celui de l'aménagement du territoire, pas seulement des infrastructures, donc du paysage à préserver.
C'est la même chose.
C'est la même chose, oui, tout à fait. Et donc, maintenant, les questions de l'aménagement commencent à bouger légèrement. Il y a une initiative qui est pendante, il y a quelques perspectives de changement de la politique officielle. Tant que chaque commune peut décider d'une manière autonome de ses zones de construction et avoir une zone de construction, chaque commune peut en avoir une. Tant il y aura morcellement du pays et cette attractivité de la Suisse, que je pense aussi qui restera très très grande, parce que l'Europe s'enfonce dans des réglementations incroyables et une persécution des citoyens fiscalement en matière réglementaire, etc. La Suisse sera toujours très attrayante. Il faut vraiment maintenant commencer tout de suite à aménager le paysage et être prêt à limiter les communes dans leur liberté d'action et limiter aussi les propriétaires. Il faut que certains ne puissent pas construire. Et d'autres doivent construire à tour de bras. Il faut dans la densité dans les villes, dans les zones urbaines.
Oui, c'est peut-être l'objet d'une autre émission. Et on en reparlera à une prochaine occasion. Je vous remercie en tout cas d'avoir participé à cette édition sur la fécondité. On retiendra finalement le message que vous délivriez peut-être involontairement, Stéphane Cotter. Si vous souhaitez faire des bébés, faites-les. C'est un peu ça la moralité, même si McCain n'est pas d'accord avec vous, je pense. Il va en parler à sa candidate à la vice-présidence. Je vous remercie Stéphane Cotter, chef de la section démographie et migration à l'EFS, Pierre Desmontet, géographe à Microgis, Beat Kapler, économiste, et la philosophe Martine Libertino était avec nous. Toutes les références à cette émission sur notre site internet g8.rsr.ch. Bonne journée à tous.